Je suis très heureux de vous retrouver dans ce numéro 5 à l'heure de l'émission Club de la Presse pour le compte de cette semaine. Nous sommes au vendredi, vous comprenez sans doute que c'est le cinquième numéro de cette émission. Club de la Presse, c'est avec Pascal Lossou au micro, Michel Kokuvitok Betomega à la réalisation. Et pour mieux nous voir à l'extérieur, Jérôme Dakoucha assure la mise en ligne de l'émission. L'émission Club de la Presse, c'est le décryptage et l'analyse à l'heure de l'actualité d'ici et d'ailleurs. C'est avec nos radios partenaires, Radio Lumière à Anikho, Radio La Paix à Takpamé, Centrale FM à Sokodé, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapaon. Et vous comprenez sans doute que nous couvrons tout le Togo. Club de la Presse, c'est aussi avec le débat en studio avec nos invités, des confrères journalistes qui se sont déjà installés. Alors, Germain Pouli, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous les auditeurs de Canal FM.
Vous êtes le patron du journal Togo Réveil. Je pense tout simplement que le Togo s'est bien réveillé ce matin.
Oui, grâce à Dieu, le Togo s'est bien réveillé, Lomé surtout, avec cette pluie.
Justement.
Qui a apporté beaucoup de fraîcheur.
Voilà. Alors, Francisco Napokoura, c'est vrai, il y a la fraîcheur ce matin, ça fait du bien.
Oui, effectivement. Maintenant, on a laissé, on va économiser un peu en électricité, en énergie, parce que la pluie a commencé, les climatiseurs et ventilateurs vont se taire un peu. Et permettez-moi, puisque vous venez de prononcer le nom Radio Daoul, d'où les gens nous écoutent à Bassa actuellement, donc de saisir l'occasion pour présenter nos condoléances à la communauté Bassa, unir Bassa encore, qui a perdu un de ses membres très 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 important, monsieur, c'est un ancien inspecteur des douanes, monsieur Kbibou, qui vraiment fait beaucoup d'actions dans la zone de Bangéli, qui malheureusement nous a quittés. Donc c'est vraiment une perte pour la communauté en ce temps où on a besoin de tout le monde pour bâtir la nation.
Tout à fait. C'est toute l'émission Club de la Presse qui présente alors ses condoléances au grand peuple, alors de Bassa. Alors, autre journaliste, alors dans ce studio avec moi, c'est Firmin Tekou Agbo, chroniqueur de son temps, chroniqueur, bien évidemment. Bonjour, Firmin.
Bonjour, Pascal Lousou. Merci de m'avoir invité. C'est tout le bonheur est pour moi.
Et je sais quand même que nous aurons des sujets à débattre et vous aurez votre mot à dire au cours de cette émission. Alors, nous ouvrons cette émission avec la page culturelle. Page culturelle, et vous avez compris que la présence alors en studio alors de Cécile Memba qui n'est plus à présenter. Cécile, bonjour.
Bonjour.
J'espère que vous allez bien.
Très bien, par la grâce de Dieu.
D'accord. Alors, ce matin, nous ouvrons même, tel que je le disais, cette émission avec la page culturelle et c'est avec votre actualité. La fin d'année 2022 et le début de 2023 ont été marqués par plusieurs de vos activités, notamment la sortie de l'idée, votre nouvel album, votre concert dédicace et une tournée nationale. Quel bilan vous pouvez dresser aujourd'hui avec toutes ces activités?
Merci beaucoup pour la question. En tout cas, avant de commencer, je donne toute la gloire à Dieu qui a permis à ce que je fasse toutes ces activités-là en bonne santé. Et le bilan, vous venez de me le demander. Bon, le bilan, c'est bien. Le bilan s'est bien passé. Il y en a que moi-même, je n'ai pas pensé avoir ce genre de résultats autour de moi. Et c'est pour cela que je donne bien le bilan, parce que Dieu s'est manifesté d'abord pour le concert, après c'est la tournée, et la fin c'est l'apothéose à Cara.
Alors, la tournée vous a amené à où et où, c'est-à-dire quelle ville, quelles sont les villes que vous avez parcourues?
Bon, je commence par Palimé,
oui.
Après Anikho, Bassa, Tankpen, Tchamba, Kaza, Kaza. Et après, maintenant, c'est Kara. Et Kara, il y a les cantons aussi que j'ai touché avant de faire la poteuse à Karaville.
Et quel a été le message phare au cours de cette tournée?
Et le message, c'est quoi? C'est non la violence, non à la violence conjugale. C'est de comment vivre en paix avec son partenaire ou sa partenaire. Comment éviter la violence, comment éviter les disputes, surtout devant les enfants. Comment, j'ai touché aussi du côté femme, comment entreprendre mieux s'épanouir dans son propre foyer et porter un coup de main à son époux du moment où ça ne va pas. Et touché aussi du côté jeunesse, de comment respecter ses parents, ses enseignants, comment éviter le tabac, comment et éviter aussi de se comporter, excusez-moi le terme, comme si on était des moutons, on était des animaux pour se coucher n'importe où, et avant les grossesses précoces aussi en milieu scolaire. Donc j'ai essayé de toucher tout cela. Et le message, je pense que c'est bien rentré.
Cécile, nous comprenons sans doute que vous vous engagez sur le plan social par rapport à cette tournée. Et finalement, quelle a été la réaction surtout des populations?
Et la réaction de la population, c'est de me dire merci. Et moi, je prends ce merci-là, ramené vers mon créateur qui a permis de les assister. Puisque c'est lui qui m'a nourri, il a intervenu dans ma vie, pouvoir aussi penser à l'autre qui n'arrive pas à joindre les deux bouts. Si je le fais, c'est pas parce que j'en ai tellement, mais il y a un moment que j'ai dit à mon Dieu, s'il faut me bénir et ne pas penser à celui qui est à côté en train de souffrir, le mieux c'est de ne pas avoir cette bénédiction-là. Donc je partage aussi le peu que Dieu me donne avec ceux qui sont dans le besoin.
Et finalement, quels sont vos projets pour l'année 2023? Parce que ça, ce sont des activités alors de 2022.
Oui, l'année 2023, d'abord, j'ai une tournée du côté Europe. Donc après cela, c'est aux USA. Et après, maintenant, je reviens avec... J'ai un projet aussi avec mes orphelins. Donc, et maintenant, sensibiliser vraiment autour de la cantine scolaire.
Ça vous tient à cœur, ce projet de cantine scolaire?
Cantine scolaire, c'est quelque chose qu'il faut vraiment appuyer. Tous les Togolais, je supplie tous les Togolais d'intervenir du côté cantine scolaire pour permettre à un enfant de gagner un repas chaud tous les jours que Dieu fait. Parce qu'il y a les enfants, ils sont la relève de demain, mais ces enfants-là, il y en a qui ne fréquentent pas à cause de ce qu'il faut mettre sous la dent. Il y en a qui quittent, surtout du côté milieu rural, les enfants quittent l'école. Ils vont jusqu'au champ pour chercher peut-être du manioc, mettre au feu à côté des parents qui sont au champ, avant de revenir. Jusqu'à ce qu'ils ne reviennent, il est déjà en retard. Il y en a même qui restent au cours du chemin et retournent à la maison parce qu'il y a la distance, il y a la faim, il y a la chaleur. Donc, vraiment, j'appelle secours à tout le monde d'intervenir du côté cantine scolaire pour faire avancer nos enfants, pour les permettre d'apprendre, pour les permettre d'être vraiment la relève de demain en bonne santé, en bonne étiforme.
Franco, quand on écoute Cécile Memba sur cet aspect alors de cantine scolaire, on comprend tout simplement que l'artiste s'engage surtout sur le plan social et surtout avec les enfants.
Oui, félicitations à elle, surtout quand elle me dit qu'elle va chanter à Bassar et à Dankwen, puisque Bassar et Dankwen sont considérés toujours comme un isolant, c'est des endroits où les gens n'aiment pas aller. C'est l'homme Nava du Togo. Et puis, vous savez, c'est comme je peux continuer dans la même logique en parlant de ce qui fonde même l'existence du Bassar, surtout en termes de partage et de richesse. Le riche, ce n'est pas le possédant, mais c'est le possédant généreux. Le peu que vous avez, vous voyez en face de vous qu'il y a des gens qui n'arrivent pas à produire suffisamment. Je ne dis pas parce qu'il est handicapé. Un handicapé peut subvenir à ses besoins. Mais celui qui n'arrive pas à produire suffisamment pour subvenir à ses besoins et des besoins de sa famille. La cantine scolaire, c'est un bon projet que le gouvernement a lancé. Effectivement, il a dit, il y a des gens qui ne mangent pas. C'est-à-dire qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas à manger. Mmh. D'accord ? Et il y a beaucoup de ces parents, de nos parents qu'on a vus. Mais nous-mêmes, on a fait le village, on sait ce que c'est. Vous revenez de l'école à midi, il faut aller au champ manger et revenir. Il y en a qui ne mangeaient que lorsqu'il y a la période des mangues, oui. Présentement, où la mangue va commencer, qu'il peut manger. D'autres, c'est cocontel, comme tchengue.
Tchengue.
Voilà. Mmh. Et chose, manioc séché, d'accord ? Et avec l'aide des arbres, des petits fruits qu'ils mangent. Mais aujourd'hui, ils ont amassé suffisamment. Ils ont des caviars qu'ils mangent. Même ils n'arrivent même plus à manger parce que il y a les maladies aujourd'hui. Donc, vous avez amassé des richesses. Mais regardez les pauvres. Regardez tous ceux qui sont à côté, les enfants, les écoles. Imaginez, cette saison de pluie, on parle de cantine. Nos écoles, il y a beaucoup qui vont, où les enfants ne vont pas aller à l'école parce que c'est des apatam, apatam amélioré, et donc c'est fini quand vous allez dans le nord, à l'intérieur du pays, c'est-à-dire que après avoir quitté Lomé, mais vous verrez que il y a des écoles qui ne vont pas fonctionner parce que la saison des pluies a commencé. Donc pour des gens qui en ont, c'est pas que pour des gens, ils en ont. Soyez généreux vis-à-vis de vos concitoyens, surtout des enfants qui sont la relève de demain. Donc félicitations à Madame Amadras Meba pour l'initiative. Nous vous demandons tous ceux qui peuvent de vous aider
à
porter vraiment ce chapeau.
J'ai été à Tankouen parce qu'il y avait un problème de malformation.
Oui.
Et j'ai appris que quand tu es les enfants qui ne sont pas nés normalement, c'est
un travail que Radio Daoul.
Donc c'est ça qui a fait que même je suis parti me mettre à genoux devant leur chef canton. J'ai dit de ne plus tuer un enfant qui est né. Il n'a pas demandé de venir au monde ainsi. Mais c'est de les aider aussi. Ils sont malades, mais ils peuvent aller à l'école comme les autres enfants.
Et si il faut préciser, ce ne sont pas des rituels
non,
les gens font. C'est que, à l'origine, on dit, bon, un enfant mal formé, c'est un génie. Même dans le temps, il y avait même des jumeaux. Quand il y a des jumeaux, il y a un qui est sacrifié, pour ne pas dire les deux. Donc, mais il y a une évolution. Bon, c'est aussi ce qu'on doit demander, l'apport de la médecine. Parce que quand vous allez dans ces zones, il n'y a qu'un seul médecin généraliste, il n'y a pas de pédiatre, les histoires d'échographie, pratiquement, il n'y en a pas. Parce que s'il y en avait, que les gens sont sensibilisés, on pouvait détecter ces malformations à temps.
Et démystifier surtout le fait.
Voilà. Donc, ce qui ne se fait pas. Donc, c'est difficile. Donc, tout cela, il faut y aller. Il faut que les programmes gouvernementaux et des organisations qui veulent bien nous aider aillent au fond. Et madame, merci.
Merci beaucoup, Franco. Et Germain, quand on voit l'engagement de Cécile Memba sur ces sujets alors qui sont d'ordre social, finalement, tous les artistes quand on est écriteur, créateur intellectuellement, on doit s'engager également sur ce plan. Je veux parler du plan social.
Oui, tout à fait. Vous savez que les artistes sont des leaders d'opinion, ce sont des stars, comme on dit. Ils sont des références, ils ont un impact sur la société. Alors, par leur rôle traditionnel, qui est de chanter, d'apporter la joie, d'égayer, certains ont pris sur eux de dénoncer, d'autres ont pris sur sensibiliser et d'aider la société à aller mieux, donc de sortir le peu qu'ils ont en termes matériels et financiers pour agir sur le terrain. Et c'est là où il faut saluer Cécile Memba, parce que, vous savez, il y a des artistes au Togo. D'ailleurs, en Afrique, n'est pas si rose. C'est pas tous les artistes qui arrivent à joindre les deux bouts. Mais quand un artiste arrive à se sacrifier pour mettre des moyens pour aider les démunis sur un continent comme le nôtre, donc il faut saluer cela. D'habitude, les artistes offrent leurs images tout simplement à des causes nobles, mais là, aller sur le terrain, travailler, mettre les moyens et faire certaines choses, c'est pas du tout facile. Je sais pas comment il se débrouille. Mais on va prier que Dieu lui donne les moyens de continuer donc à faire ce travail-là. Elle est assez spirituelle, elle est assez croyante. Elle a demandé à Dieu de lui donner et elle va prendre une partie pour aider. Je pense que c'est ce que Dieu est en train de faire. Donc que Dieu la bénisse. Et on ne peut que la saluer. J'ai vu les images de son show apothéose à Carras. Je n'y étais pas malheureusement, mais c'est du délire. C'est extraordinaire hein, ce qui s'est passé. Vous allez voir les femmes en transe. La femme totalement métamorphosée, je crois qu'elle a trouvé la formule pour toucher les problèmes au lieu de chercher la solution. Des femmes dans les églises, de faire des veillées pendant des semaines et créer encore d'autres problèmes au foyer. Hein, porter ce message-là, et je crois que les artistes qui le peuvent, les grands sportifs qui le peuvent, tous ces leaders d'opinion qui le peuvent, je crois qu'on attend leur pierre à la construction de ce qu'il fait. Et son engagement pour les cantines scolaires, il faut vraiment saluer. Et saluer toutes les bonnes volontés qui aident déjà le gouvernement. Sur ce plan-là, il y a énormément de choses à faire. Parce que la nation doit se bâtir sur l'éducation. L'éducation, c'est l'enfance, c'est dès maintenant qu'il faut envoyer les enfants à l'école. Et ces cantines scolaires jouent un rôle très important.
Fimer, on doit être d'accord que des artistes doivent s'engager sur le plan social, mais aussi ça ne doit pas être seulement que des artistes, mais c'est tous les leaders communautaires, tout le corps, hein, non seulement des artistes, mais de tout le monde doit s'engager.
Oui, tout le monde doit s'engager. Je suis parfaitement d'accord parce que je ne suis pas d'accord avec le fait qu'on impose aux artistes de s'engager sur le plan social parce que ce n'est pas de leur ressort, ce n'est pas leur responsabilité. Ce que Cécile Memba est en train de faire, c'est quelque chose de louable et puis elle joue vraiment pleinement son rôle citoyen parce que quand on parle de la citoyenneté, on parle de la civilité, du civisme et de la solidarité. La solidarité, c'est citoyen en fait. Quand vous êtes dans une nation, vous appartenez à une nation, il vous incombe d'être solidaire. La solidarité, elle est obligatoire. Je pense que c'est ce que nous n'arrivons pas à comprendre en Afrique. Donc, elle joue son rôle citoyen. Moi, je ne dis pas en tant qu'artiste, parce qu'elle se dit, elle est togolaise. Du moment où elle voit certains dans le besoin, donc il faut intervenir pour les aider, pour les soulager. Le monde artistique lui permet d'avoir un peu et de partager ça. Donc, là, on doit louer ça. À ce niveau, vous savez, dans certains pays, les riches, la plupart des riches pensent aux pauvres. Mais je me dis, est-ce qu'on a des riches au Togo?
Vous voulez parler des philanthropes?
Oui, bien évidemment. Est-ce qu'on a des riches au Togo? Parce que ailleurs, des riches financent par exemple des restaurants publics. Ceux qui en ont vont déposer dans des magasins publics, c'est-à-dire là où les autres, d'autres riches, d'autres bienfaiteurs viennent déposer et on distribue aux plus pauvres. Il y a cet exemple de la Grande-Bretagne que je donne ces derniers temps, c'est-à-dire en ce temps de vie chère, il y a des banques alimentaires qui ont été mises en place où des riches vont déposer un peu ce qu'ils ont, ils donnent de l'argent, ils donnent de la nourriture et maintenant les plus pauvres, les plus modestes viennent chercher cela arrive à nourrir au moins 7 millions d'anglais de cette population là. Moi je me dis, est-ce qu'il y a des riches au Togo? S'il y a des riches au Togo et puis on souffre comme cela, c'est ça en fait, c'est sur le plan social. Parce que s'il y a quelqu'un qui me disait hier qu'elle a un endroit quelque part où les gens viennent manger foufou la pâte chaque midi, entre temps faisait 200 000 francs par jour, maintenant ces derniers mois il lui est difficile d'atteindre 50 000 francs. Et puis la personne a conclu avec cette phrase, la misère devient de plus en plus ambiante au Togo. Donc moi ce que je souhaiterais c'est que tous les riches, tous ceux-là qui en ont suffisamment même d'ailleurs, emboîtent le pas à Cécile Memba et aussi aider le gouvernement, parce que des fois ce n'est pas c'est pas évident. Aux États-Unis, c'est pas seulement le gouvernement qui crée des restaurants publics. Aux États-Unis, en France, en Angleterre, il y a des églises même, il y a des riches qui créent des restaurants publics où chaque jour, toi qui n'en as pas, tu as un petit ticket de 10 francs, entre guillemets, 10 francs, tu vas dans ce restaurant matin, midi, soir, tu manges gratuit comme ça. À peine tu paies 10 francs ou 1 dollar ou 1 euro. Même si tu n'as pas cet argent, tu viens manger. Pourquoi Dans ce pays où le gouvernement s'évertue à redistribuer un peu la richesse nationale avec la mise en place des cantines scolaires, pourquoi ne pas aider le gouvernement à mettre en place des restaurants publics dans les 5 régions du Togo où, par exemple, les plus défavorisés, les plus modestes, à chaque midi, viennent, peut-être avec un petit ticket de 10 francs, viennent manger, ou chaque midi soir, viennent manger. Et on le fait dans toutes les régions du Togo. Je pense que ça va aider tout d'abord aussi à avoir une certaine croissance, parce que ça va permettre à ce que l'argent circule dans le pays. Vous imaginez ce que l'argent circule dans le pays? Ça permet aux gens d'avoir de l'énergie pour servir, aider à construire le pays. Parce que quand vous n'avez rien, comment vous pouvez penser à aider à construire votre pays? Donc je pense que ce que je demande ce matin, solennellement et en toute humilité, c'est que tout le monde arrive à faire comme Cécile Memba.
Je pense que votre appel sera attendu. Franco?
Oui, il y a des exemples dans la sous-région. Quand vous allez en Côte d'Ivoire, quand vous voyez, même vous faites dans les moteurs de recherche, dans Google, vous tapez Madame Ouattara. Quand vous voyez ce que cette dame fait en Côte d'Ivoire,
Dominique
Ouattara, comme œuvre sociale, mais c'est énorme. Même au Togo, il y a des initiatives. Par exemple, la dame, Madame Akoli, dont l'étage a chuté au grand marché. Mais c'est grâce à elle que moi j'ai connu, par exemple, Nyinoumé à Ménira. Mais périodiquement, elle fait à manger. La rentrée distribue les cahiers, les pagnes pendant les périodes de fêtes. Et puis quand vous voyez, vous sentez que la pauvreté a atteint nos milieux. Il a dit tout à l'heure, les petits commerçants ne marchent pas. On vient de dégager les kiosques. C'est un problème social, un peu sociétal pour nos communautés. Ça, j'ai mis la différence entre être riche, c'est-à-dire ce que j'appelle un riche, un ougadia, celui qui est riche, et un possédant. Le possédant, c'est celui qui en a amassé. Il est orgueilleux. Il ne peut pas partager. Le riche, c'est celui qui a peu, mais qui pense que les autres en ont besoin, et comme Madame Cécile Memba, qui n'a pas grand-chose. Mais elle cogne les portes pour que aidez-moi à aider les autres. D'accord? Donc, c'est ces gens-là, il faut leur faire appel, parce que votre argent, vous-même, vous ne pouvez pas bouffer, puisqu'il y a aujourd'hui toutes les maladies, diabète, tension, choses. Donc tout ce que vous avez à Manoukou, vous allez mourir laissé. Ça va même créer des problèmes à votre fourniture. Parce qu'aujourd'hui, on n'est pas organisé pour la succession. D'accord? Du coup, vous êtes mort. L'argent que vous avez privé à un autre et que vous avez amassé, vos enfants vont se couper la tête. Donc c'est dès maintenant de votre vivant qu'il faut vraiment essayer de rendre, hein, comme on le dit à César, ce qui est à César, parce que c'est l'argent des autres que vous avez malheureusement amassé.
Francisco, je vous paraphrase, juste, vous dites, un riche n'est pas un possédant, mais un possédant généreux.
Généreux.
Voilà, merci beaucoup. Oui. Francisco, oui, rapidement,
Non, en fait, ça d'accord, dit quand même qu'il y a comme une initiative comme ça qui est en train d'arriver, un peu pour saluer ce qui a été fait. En termes de solidarité, ces 3 dernières années, sur le Covid, il y a eu beaucoup de gestes de générosité, de solidarité qui ont eu cours dans le pays. On n'en parle pas beaucoup, mais un événement qui arrive très bientôt avec quelques journalistes réunis au sein d'un mouvement qui s'appelle Médias Solidaires, justement. Il y a beaucoup qui ont fait à titre privé. Il y a des entreprises, il y a l'État, comme on dit, il y a des fondations, il y a des associations, il y a des artistes, comme Cécile Memba, des Kingsan, Toufan et bien d'autres aussi.
Avec des fondations.
Qui font régulièrement des choses. Donc des choses se font. Après, je crois qu'il faut déjà montrer ce qui se fait et encourager les autres aussi à le faire.
Tout à fait.
Après aussi, il ne faut pas être forcément riche pour aider, la pauvreté, c'est le voisin d'à côté. Il ne faut pas aller à la BTCI donner de l'argent aux mendiants. Mon voisin qui a peine à acheter la sauce, à qui il manque du poisson, à qui il manque un bol de maïs, et que moi je peux, donc je le fais. Donc la solidarité, n'attendons pas que ce soit forcément ceux qui ont des millions, des milliards qui aident. Ben, je peux me priver d'une belle chemise pour offrir un bol de maïs à un voisin, je peux me priver d'une Guinness pour acheter un truc à quelqu'un. Nous voyons qu'on doit atteindre un niveau de richesse avant d'aider. En Occident, quand on parlait, c'est pas forcément les riches qui donnent. Vous avez en Allemagne, par exemple, des gens qui travaillent, qui envoient l'argent pour des églises ici. Des médecins, des enseignants, c'est pas des riches. Mais il faut avoir cette culture-là de solidarité,
de générosité,
de partage. Voilà, ça dit, mon ami souffre, mon voisin souffre. Demain aussi, ça peut être moi qui suis en bonne santé, en forme, qui ai un peu d'argent ou un boulot aujourd'hui. demain, je peux ne pas avoir de boulot, je peux être malade, je peux être en difficulté. Donc, s'il y a cette chaîne-là, et donc après, il ne faut pas aussi trop se plaindre qu'il n'y en a pas. Il y a assez. Il y a assez d'initiatives. Et comme je le disais, il y a un truc qui arrive comme ça en vue pour très, très bientôt, pour saluer des personnes comme Cécile Mébar, même quand l'autre en parlait à Bassar, il y a une fondation Assal qui fait énormément, beaucoup à Bassar, qui soutient aussi l'éducation et un certain nombre de choses. Donc, il y a plein d'actifs. Je crois que c'est le moment de les valoriser parce que, en tout cas, ces trois dernières années avec la Covid, beaucoup de Togolais se sont montrés solidaires. Il faut que ça continue comme ça pour attirer les autres.
Et nous encourageons vraiment ces actes.
Pour terminer.
Et terminer vraiment.
Oui. Il y a des gens qui ont les moyens, mais ils préfèrent aller plutôt dans les églises parce que pour donner, pour que peut-être leur péché soit lavé par Dieu. Non, il y a les pauvres à côté. Aujourd'hui, je vous assure que même l'église, nos communautés religieuses ont raté leur mission d'assister les populations. Au contraire, c'est des gens qui dirigent les églises et autres qui sont devenus déjà riches. Parce que nos riches savent donner pour qu'on prie, pour que leur péché soit lavé. Alors, en donnant à côté, vous faites plus qu'aller donner à l'église. Je ne dis pas de ne pas faire ce qu'il faut vers l'église, mais sachez que en faisant dans votre communauté, en faisant autour de vous les voisins, mais vous pouvez aussi parvenir au paradis, si jamais paradis y a.
Merci beaucoup Franco. Et je pense que nous allons rapidement clôturer cette partie alors de culture avec... alors, il y a en studio avec nous, il y a Octance Nayo, puisque jamais le disait tout à l'heure que les artistes, ce sont des gens aussi qui savent nous égayer avec leurs chansons, avec tout. Et donc, Octance Nayo nous invite demain, le samedi 25 mars, à Goethe Institute. Octance, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour chers invités et auditeurs du Club de la Presse.
Voilà, il y aura un concert demain. Et comment ça va se passer?
Solo Jagodio, Yomo Jagodio, Gake ne fwang be siak be ple tukada. Devio maduno, de siti mugbaleo, Vwag be siak be ne doato la hanupeo. Nyo be yak blan, nek banan kudina o. Niobe le kea fok bwede na tome na o. Nia hamunyo na wade o la donia. Rigobert dati agbe walo. O Rigobert. Ahamu mwa monsoku o Rigobert. Voilà un peu ce qui va se passer demain.
Je
suis très
contente
d'avoir écouté ma grande sœur sur son engagement. Mmh. Voilà, c'est ce genre d'artiste dont on a besoin aujourd'hui. Mmh. S'engager, exprimer les besoins de la femme, valoriser notre culture, lutter pour la protection de l'environnement. Donc, pour le concert de demain, j'invite la population à faire massivement le déplacement. Ce sera ma première sortie. Après avoir fini mon album que j'ai enregistré tout récemment.
Et c'est à partir de 19h.
19h. Et l'entrée est gratuite à l'Institut Goethe.
Alors, est-ce que Hortense Nayo sera seule sur le podium?
Je serai avec mes musiciens. Ce sera un concert live. Oui.
Et est-ce qu'il y aura d'autres artistes aussi qui seront sur scène avec toi?
Il y aura une artiste, elle est en même temps percussionniste, elle s'appelle Esther Sefako, qui sera en première partie.
D'accord. Oui. Donc, vous invitez alors massivement les gens à
vous venir au concert. Vous êtes invité, tout le monde.
Voilà. Merci beaucoup, Octance. Je pense que le rendez-vous est pris pour demain à Goethe Institute à partir de 19h. Nous serons ensemble pour le concert. Et alors, on retourne alors voir la grande sœur, Cécile. Il y a Octance qui serait en concert. Nous avons obligation quand même de l'accompagner demain.
J'invite mes frères de sortir massivement, venir soutenir ma petite sœur Hortense. Mais malheureusement, moi, je serai en déplacement.
Déjà, si t'es fan.
Mes fans seront là, ma place.
Au moins, une multitude.
Voilà. Ils sont nombreux, mes fans sont nombreux. Mais, je vous invite.
Parce que je suis très honoré hein, ce matin, parce que pourquoi bien entouré hein, par de belles créatures et de belles voix. Vous savez, sa voix, c'est Bella Bello Craché. Et puis, je rends hommage hein, à toutes ces femmes et qui en souffrent beaucoup. Et justement, puis, je vois hein, particulièrement les dames qui vendent Eglin, là, comme on appelle, voilà, dans les Agouais et autres, qui se baladent à pied avec des dames sur la tête. Quand vous les voyez, achetez beaucoup, parce que c'est des dames qui contribuent beaucoup au foyer. Ce qu'elle a chanté, ce n'est pas entonné, c'est très profond. Et disons questionner, échanger avec ces bonnes dames qui nous nourrissent.
Je pense que c'est un avant-goût alors de ce qui se fera demain. Donc ce qui veut dire qu'il y a de grandes surprises alors qui nous attendent demain.
De très très grandes surprises.
Alors merci beaucoup à vous Cécile Memba et également à Hortense Nayo pour ce moment de culture passé avec nous bien évidemment. Et donc l'émission Club de la Presse et nous parlons d'autres choses. Nous prenons les journaux aujourd'hui. Il y a déjà pour la patrie l'Union qui titre à sa une extension centrale solaire de Blita, 60 000 ménages à desservir de plus. Et l'Union pour la patrie qui est revenue alors sur cette inauguration, le président de la République, Faure Gnassingbé, qui a posé le 21 mars 2023 le premier panneau de la troisième phase des travaux d'extension de la centrale solaire photovoltaïque de Blita dans la région centrale. Et les travaux d'extension dureront 12 mois et le nombre alors de ménages bénéficiaires passera de 158 000 à 218 000, soit 60 000 de plus. Alors, économie et développement, titre à ça une sur le sujet. Assez universel à l'énergie électrique, le Togo lance la troisième phase de la centrale solaire photovoltaïque d'une capacité de 20 MW crête. Alors, Togo Matin qui titre à ça une centrale solaire de Blita, la capacité passe de 50 MW à 70 MW. L'éveil de la nation de Tamdjobo titre à sa une Blita, Faure Gnassingbé lance les travaux d'extension de la centrale photovoltaïque. Et Faro, si nous prenons tous ces titres hein, sur le sujet aujourd'hui, on comprend tout simplement que déjà à Blita, il y a quand même une solution qui sera trouvée pour ce qui concerne alors, le manque d'énergie, surtout électrique.
Oui, tout le monde sait, l'énergie, c'est un fondamental hein, pour le développement. Donc, aujourd'hui, Blita est en forte extension. C'est un investissement privé, c'est un investissement privé étranger et qui se fait. Et c'est bien si tel genre d'initiative s'agrandissent parce que nous avons besoin suffisamment d'énergie. Il y a aussi entre-temps la centrale électrique Kekeli. Et normalement, Kekeli 1 a été inauguré et on avait eu vent qu'il devait avoir un Kekeli 2 qui finalement a disparu. Mais jusqu'ici, on ne sait pas ce que Kekeli donne comme énergie au Togo, puisque le délestage, disons, au sud, même à l'intérieur, ça continue. Donc, ça veut dire qu'il y a toujours un manque qu'il faut combler.
Voilà. Et il y a un manque à combler, Germain. C'est vrai que ces derniers temps, on a vu quand même qu'il y a cette histoire ou cette question alors de délestage qu'on rencontre toujours. Est-ce que ça veut dire que les efforts qui sont toujours faits pour ces centrales photovoltaïques et tout, ces efforts ne sont toujours pas suffisants?
Non, je crois qu'il y a de grands efforts qui sont faits. Aujourd'hui, quand vous êtes en ville, peut-être vous pourrez vous plaindre de quelques rares coupures, mais délestage, je ne pense pas. Il n'y a pas de délestage en tant que tel. Il y a quelques coupures, parfois pour des raisons que la société communique, peut-être pas suffisamment, mais certaines radios, certains journaux reprennent des communiqués de la société. Mais aujourd'hui, ce qui se passe, c'est dans les zones rurales. Il faut emmener l'électricité, l'énergie dans les zones rurales, et le Togo a prévu que d'ici 7 ans, tout le Togo va être couvert dans d'ici 2030. Alors quand vous prenez ce qui a été fait, jusqu'à aujourd'hui, le Togo est à environ 60% de couverture. Donc c'est énorme. D'ici 7 ans, je pense que presque 40% sera couvert et donc tous les Togolais auront l'électricité. Donc c'est à saluer parce que quand on prend la tendance sur le plan africain, c'est plus de 80% du continent hein, qui était dans le noir il y a quelques années. Aujourd'hui, plusieurs pays font des efforts, mais la solution aujourd'hui, ce sont les énergies renouvelables. C'est le solaire et le Togo a fait ce choix-là. En adhérant à l'Alliance solaire internationale, en faisant énormément, surtout dans les zones rurales, sur les centrales photovoltaïques qui vont donc produire de l'énergie à partir du soleil. Et ce qui se passe à Blita est quelque chose d'extraordinaire en Afrique. Déjà en Afrique de l'Ouest, c'était la plus grande centrale solaire avant l'extension, l'augmentation de la capacité la dernière fois. Et donc avec cette augmentation-là, on est en train d'être de plus importante centrale solaire sur le terrain et le pays est engagé. Objectif donc apporter l'énergie et lumière donc à toutes les zones, même les plus reculées. Et le développement, comme l'a dit et mon confrère passe justement par là, il faut de l'énergie pour que le pays se développe. Aujourd'hui, le pays investit dans la communication, dans la téléphonie mobile, Internet, qui est aujourd'hui un atout, un outil incontournable. Il peut avoir d'Internet s'il n'y a pas de...
Tout à fait.
Donc, vous voyez que par rapport aux ambitions du Togo, Cap 2030 doit être un rendez-vous à honorer. En 2030, il faut que chaque Togolais ait la lumière. Et il y a eu un projet très intéressant qui a été lancé officiellement à Tapame la semaine dernière. C'est le projet Tinga.
Le projet Tinga.
Qui permet à ce qu'on amène la lumière à des gens qui n'ont pas l'argent pour payer les branchements traditionnels, et je crois qu'ils paient 1000 francs par mois, hein, jusqu'à ce que toutes les frais soient couverts. Donc, avec ce projet-là qui a été lancé la semaine dernière à Tapame par le ministre de l'Énergie, la plus jeune des ministres au Togo, c'est plusieurs couches qui, en temps normal, n'ont pas les moyens d'avoir le branchement chez eux, donc ils peuvent avoir l'électricité avec, je crois, 2000 francs, hein, 1000 francs, 2000, vont vous installer, vous payez chaque mois. Et donc, c'est, l'objectif est là, et vivement que tout le Togo soit couvert, parce que en dehors des routes, l'autre chemin par lequel passe le développement, c'est forcément l'énergie, c'est l'eau aussi, qui est un rendez-vous important auquel le Togo doit répondre aussi dans quelques années.
Firmin, c'est vrai que Germain l'a touché du doigt maintenant. Quand on prend même d'ailleurs notre continent, c'est un continent qui a le soleil en permanence hein, pour les 365 jours. Normalement, nous ne devons même plus avoir un manque alors d'énergie en électricité.
Oui, vous touchez le continent. Je pense qu'il y avait eu un ministre français qu'on appelait à l'époque Jean-Louis Borloo qui avait promis d'électrifier toute l'Afrique à plus de 600 milliards d'euros. Je me demande où est ce projet. Par là, je demande est-ce que toute l'Union africaine pense véritablement à électrifier tout le continent. Mais particulièrement, je salue les efforts du Togo sur le plan de l'énergie. Parce que dans des pays comme le Ghana, le Nigeria, le délestage là-bas, c'est...
Ça devient quotidien.
C'est quotidien. Et moi, je dis, on a connu, moi je me rappelle en 2006, où on a connu un fort délestage, mais les autorités togolaises se sont évertuées à nous sortir de cette situation. Et aujourd'hui, il y a des efforts énormes. Ça, je le dis en toute humilité, il y a des efforts énormes qui se font sur le plan énergétique. Et à ce niveau, moi, je dis bravo. Et si on peut continuer avec cet effort, avec cet élan-là, moi, je dis dans 5-10 ans, notre croissance économique va être à un niveau très important parce que les zones qui ont de l'électricité, il y a le commerce qui est florissant, il y a le système éducatif qui a une bonne note, il y a l'Internet, dont l'Internet, avec l'Internet, on peut faire beaucoup de choses. Les enfants peuvent facilement étudier. On peut faire beaucoup de choses. Donc, On va quitter ces zones reculées, on ne va plus tellement les appeler reculées parce qu'elles vont être beaucoup plus proches.
Tout à fait.
Elles vont être beaucoup plus proches. Donc, à ce niveau, moi, je soutiens le gouvernement et je demanderai à ce que ces efforts-là se poursuivent pour que dans les 5 années, 10 ans à venir, qu'on puisse avoir une croissance économique. Parce que la croissance, c'est quoi? Moi, je le dis toujours simple, je suis pas économiste, c'est l'investissement et la consommation. Dans les zones où il y a l'électricité, on peut facilement investir et on peut facilement consommer. Dans ces zones-là, on aura acheté plus de portables, on aura envoyé plus d'enfants à l'école, on aura acheté plus de fournitures, parce que beaucoup d'enfants vont aller à l'école, on aura acheté plus de livres, on aura acheté plus de réfrigérateurs, tout. Donc, moi, je me dis, c'est une très bonne chose. Avec l'électricité, on peut avoir un développement sans si on s'y engage véritablement.
Oui, Pascal, oui. On peut acheter tout ça, mais si on les fabrique chez nous, on va produire de la valeur.
Donc, avec l'électricité, on va installer ces usines-là.
Oui, si vous êtes d'accord. Vous savez, Tampa Express, dans son numéro 30 du 30 novembre passé 2022, avait titré « Sans électricité, les populations de Bago tourneront-elles la page de RPT Unir aux prochaines élections ?» C'est un article que nous avions là, parce que Bago, c'est un grand canton dans Cambolé, à qui on a promis l'électricité depuis 2017, je crois. On a mis les poteaux, les poteaux pour drainer l'électricité, mais il n'y a pas de fil. Donc, en tant qu'on faisait le dossier, on a remarqué que l'entreprise qui a empoché l'argent a disparu. Ou en temps, on a dit aux populations que le navire qui a transporté les poteaux qu'on va planter a chaviré dans la mer. Donc, Bago, regarde le Bénin, c'est frontalier au Bénin. Et quand vous êtes ici de l'autre côté, il y a de l'électricité. Est-ce que au Bénin, voisin, et même ils disent que les Togolais ont acheté leur réfrigérateur qu'ils ont déposé au Bénin, et c'est là-bas ils vont chercher leur boisson fraîche. Donc, j'en appelle encore, Tampa Express en appelle encore au gouvernement et à la CET de résoudre le problème d'électrification de Bago. Le grand canton, le plus grand canton de Djambé.
Franco, dans cette semaine aussi, nous avons observé la visite alors du président nigérien et Mohamed Bazoum au Togo. Et déjà à la une alors des journaux ce matin, il y a Bruno qui sont revenus alors sur cette visite. Il y a Togo Réveil qui est revenu sur cette visite où vous titrez à la une Fornyasinghe et Mohamed Bazoum inaugurent l'extension de Lomé Container Terminal. Il y a économie et développement aussi qui est revenu sur le sujet intégration sous-régionale. Le Togo et le Niger réitèrent leur engagement à la facilitation de la ZLEF et l'éveil de la nation aussi est revenu sur le sujet coopération, échange fructueux entre Fornyasinghe et Mohamed Bazoum à Lomé. Alors, Germain, qu'est-ce qu'on peut attendre, surtout la population, bien évidemment, qu'est-ce qu'on peut attendre de cette visite alors de Bazoum au Togo?
Cette visite est déjà saluée parce qu'il ne faut pas attendre l'arrivée d'un président français, russe, américain ou je ne sais quoi pour applaudir. Il faut que les relations entre les pays du Sud se renforce. Aujourd'hui, c'est ce qui essaie de faire à certains de nos pays, donc le Togo et le Niger, c'est des relations d'affaires avant tout, avant d'être des peuples qui sont ensemble au sein de la CEDEAO, côté affaires aujourd'hui, parce que c'est l'économie dont il est question. Le Niger, tout comme le Mali, font partie donc de ce pays, le Burkina également, de l'Interland qui viennent récupérer leurs marchandises ici au port de Lomé. Et donc les hommes d'affaires du Niger, vous avez pu le constater, étaient assez nombreux à l'aéroport donc pour accueillir le président qui est également venu défendre leur dossier avec la mise en place d'une commission donc qui a été mise en place pour mieux traiter certains sujets relatifs aux opérateurs économiques du Niger. Donc ce qu'on peut attendre, c'est que le Togo est la porte d'entrée donc de ce pays de l'Interland, le Togo qui en a profité aussi pour accroître les capacités donc de son port avec Lomé Container Terminal qui a étendu aussi donc ses installations. Tout ça faisait du Togo donc le quatrième port africain de transportement aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, le positionnement s'améliore. Et donc le Niger y est très intéressé, c'est normal. Et après, il y a d'autres questions qui sont liées à la sécurité qui aujourd'hui nous concerne tous. Et il y a des questions politiques. Donc je crois que Bazoum aujourd'hui s'est rendu compte aussi du rôle important que joue le Togo dans la sécurité et dans la pacification et surtout dans l'amélioration des relations entre les différents pays de la CEDEAO. On a vu les grands succès diplomatiques dans le dossier malien ou dans le dossier ivoiro-malien. Donc tout cela a fait que le Niger est venu faire d'une pierre plusieurs coups, renforcer cette coopération-là. Et on ne peut que le saluer. Donc, il n'y a pas que le Niger qui vient, le Togo aussi bouge. Le président était il y a quelques jours en Ouganda aussi, qui est un autre pays du Sud. Et je crois que cette façon pour le président de se visiter, d'aller travailler ensemble pour améliorer la situation, qu'elle soit économique, sécuritaire ou diplomatique, plutôt une bonne chose. Le moment est venu qu'on se serre les coudes entre pauvres, parce que le monde est en train de se redessiner et l'Afrique doit pouvoir jouer un rôle qui doit être différent de ce qu'il a l'habitude de jouer, qui être un éternel assisté. Il faut aujourd'hui que l'Afrique prenne des initiatives et se prenne en main.
Fémin, c'est vrai qu'on connaît le positionnement à la peur de Lomé par rapport aux autres ports et déjà avec cette visite à l'Orde Bazoum. Tout simplement que c'est la coopération bilatérale suite qui se renforce. Mais finalement, qu'est-ce que cette visite peut cacher?
Oui, moi je voudrais aborder plutôt là où vous avez chuté ce que cette visite peut cacher. Germain l'a effleuré tout à l'heure. Moi je pense que la visite est beaucoup plus sécuritaire historique, historico-sécuritaire, si on peut le dire ainsi. Et sécuritaire parce que vous savez que le Togo joue un grand rôle sur le plan sécuritaire dans la sous-région.
Tout à fait.
Et moi j'ai l'habitude de blaguer en disant que quand on parle du G5 Sahel, le Togo est le pilier du G5 Sahel, géographiquement. Vous voyez, le G5 Sahel, c'est quoi? C'est les cinq pays du Sahel. Et, géographiquement, ces pays sont sur la tête du Togo. C'est-à-dire, sur la tête du Togo, vous verrez le Burkina Faso, vous verrez le Mali, vous verrez la Mauritanie, et vous verrez aussi le Tchad qui est quelque part. Donc, si cette zone Togo se déstabilise aujourd'hui, ça veut dire c'est toute la sécurité de ces cinq pays dont je viens de parler qui va être déstabilisée. Le Togo joue un rôle important. Et aussi, la France a besoin du Togo pour jouer ce rôle sécuritaire. N'oubliez pas qu'en 2021, si j'ai bonne mémoire, le président togolais a été reçu au palais de l'Élysée. Et la sécurité a été au menu de leur discussion. Je le dis parce que quand vous voyez, je me rappelle un peu l'image du palais de l'Élysée, il y avait le général Yak qui faisait partie de la délégation. Donc le général Yak, c'est le ministre de la sécurité. Donc, indubitablement, ils avaient eu à parler de la sécurité. Historique parce que, vous savez, c'est comme le Togo se positionne comme le doyen des États africains. N'oubliez pas, ça peut choquer les gens. Et Adema, avant de mourir, était le doyen des chefs d'État en Afrique. Et il essayait de régler tous les conflits en Afrique. Donc, pratiquement, il maîtrisait tous les dossiers des États. Donc, le régime, aujourd'hui, Yadema fait 38 ans, Fonia Sime, qui est là, qui est aujourd'hui aussi le doyen des chefs d'État en Afrique de l'Ouest. Et quand vous venez, vous êtes chef d'État en Afrique de l'Ouest, votre intuition, votre instinct doit vous dire, allez rendre visite à Fonia Sime, parce qu'il connaît votre pays peut-être mieux que vous. Vous imaginez, vous n'allez pas me dire que Ibrahim Traoré, qui a 34 ans aujourd'hui, ne va pas régulièrement faire appel à Fonia Sime pour régler son problème sécuritaire. Parce qu'aujourd'hui, il a 34 ans, fort il est déjà près de 60 ans, il fait 17 ans de pouvoir. Son père avait fait 38, donc ils connaissent mieux le Burkina Faso que Ibrahim Traoré qui est là. Fonia Sime et tout son système connaissent mieux la sécurité du Mali que Assimi Goïta qui est là, quarantaine. Vous imaginez. Donc, Bazoum, il est venu ici, il est venu demander conseil pour qu'on lui parle du Niger, bien sûr, dont il est originaire, pour qu'on lui dise comment le pays la fonctionne sur le plan sécuritaire et aussi comment on entretient la relation avec l'Occident. Parce que ce qui manque aux jeunes aujourd'hui, qui sont versés dans une certaine émotion, c'est qu'il manque de la diplomatie. Yad Demba, c'était un fin diplomate. Il a appris à connaître les Français. Il a appris à connaître comment négocier avec les Occidentaux, ce qui a manqué indubitablement à Sylvanus Olympio, qui n'a pas pu faire 3 ans de pouvoir parce qu'il était pressé, parce qu'il se disait intelligent, intellectuel. Et il y a de petits trucs qui lui manquaient. C'est ce qui avait manqué aussi à Patrice Lumumba, qui prenait la RDC ou le Congo belge à l'époque comme sa propriété ou comme son pays, alors que ce Congo belge appartenait aux Occidentaux. Donc il faut une certaine diplomatie, et c'est ce que font les Assimés. Ah, c'est pour cela que vous allez voir le Togo dans la sous-région est le seul pays qui n'a problème avec qui que ce soit. Le Togo est bien, en bon terme, avec tout le monde. Donc quand vous avez un problème, le Togo peut venir régler. Donc les Maliens et les Ivoiriens se querellent, le Togo est allé régler les problèmes. Aujourd'hui, le Mali et le Niger ne s'entendent pas bien. Peut-être Bazoum aura à discuter de ce problème avec Fonia Singbe. Et Fonia Singbe peut-être va lui dire, monsieur, vous êtes frère, vous êtes condamné à vivre ensemble. Comme ce que, en 98, lorsque Ronis, président du Ghana d'alors, était venu rendre visite à Yadema, que je me rappelle, c'est très jeune, mais j'ai toujours cette phrase, il dit, le Togo et le Ghana sont des frères condamnés à vivre ensemble. Mmh. Aujourd'hui, le Niger, le Togo, toute la région et le Togo sont des frères condamnés à vivre ensemble. Bon, pour conclure, ils ont eu à discuter de l'histoire et ils ont eu à discuter de la sécurité.
Mmh. Franco, c'est vrai que sur le plan économique, on sait que cette visite pourra également engendrer quelque chose ou impacter sur les deux pays. Alors, quel est peut-être l'enjeu alors économique de cette visite de Bazoum?
Oui, vous savez qu'avant que Bazoum n'arrive au Togo, il y a 2 semaines, je crois environ, il était au Bénin.
Tout à fait.
Et vous savez que le Bénin est juste, le Niger est juste au-dessus du Bénin. Mm. D'accord. Et que depuis, je crois, un an, il y a une bonne partie du trafic maritime et qui venait au Togo, qui est dirigeanté vers le Bénin pour des raisons d'insécurité. Donc, vous savez que depuis, je crois, mai 2022, il y a les djihadistes qui ont coupé la route au niveau de Koupéla et de Kanchari. Mm. Donc, du coup, les transporteurs togolais qui quittaient Lomé en passant par Saint-Cassé, d'accord, en passant par Saint-Cassé comment vous l'appelez pour descendre jusqu'à Fadangourouma, Kanchari et autres pour aller au Niger. Mm. Donc, ce chemin est bloqué. Les gens tentent de passer, par exemple, par Ketao, chez Germain. Mais là aussi c'est très coûteux. Hein, c'est très coûteux pour les importateurs. Mm. Donc, le plus court chemin et moins coûteux, c'est par le Bénin. Mm. D'accord. Et Bazoum est venu au Togo, je crois que le chef de l'État l'a invité, pour venir voir ce qui se fait au Togo comme travail, parce qu'à un moment donné, c'est tellement que les flux de marchandises, et ce qui est évident, ont ralenti, à destination du Niger, ont ralenti. Ce qu'il faut savoir, c'est que le port autonome de Lomé, surtout le port LCT, MSC, Medlog, ils font un grand travail, avec des équipements modernes et quand vous voyez le travail se fait, c'est efficace, même à vue d'œil, vous sentez que ça. Mais maintenant, il faut promouvoir tout ça par la route. Mm. D'accord? C'est-à-dire que la nationale numéro 1, c'est le premier marketeur du port autonome de Lomé. Mais aujourd'hui, quand vous prenez la nationale numéro 1, la route est totalement saturée. Si, quand vous quittez Davier, et pour arriver à Takwame, c'est après même à Takwame que vous commencez un voyage. Sinon, le reste, vous êtes sur un sentier. Donc, l'autoroute qu'on nous a promis, ça fait 3 ans, il faut que cette autoroute-là démarre. Maintenant, quand vous arrivez, le meilleur contournement qui est en train de se faire, c'est-à-dire qu'au lieu de passer par Alejo, le contournement d'Alejo, qui va demeurer, disons, un contournement touristique, le vrai contournement passe par Bassa. Mais depuis qu'on a lancé le chantier de Bassa, nous avons déjà bouclé la remise des travaux. Mais le goudron n'est pas encore passé sur ce tronçon. Est-ce que vous voyez? Donc, il faut développer la route, résoudre le problème de sécurité. Normalement, ça doit être le grand chantier entre Bazoum et Fort Gnassingbé. Puisque je dis le port autonome de Lomé, les investissements ont été faits, mais il faut rentabiliser l'investissement. D'accord? Il faut rentabiliser l'investissement à résoudre le problème d'insécurité qui se trouve entre Fadan Ngourma jusqu'à Kanchari pour permettre maintenant que les flux de marchandises qui sont détournés vers le Bénin puissent revenir vers le Togo. Bien sûr, les gens parlent de transportement, c'est un autre problème. Le transportement, le Togo ne gagne pas grand-chose. C'est le manutentionnaire qui dépose le conteneur et qui prend pour remettre sur un autre bateau. La marchandise n'avantage le Togo que lorsque cette marchandise traverse le cordon douanier. Lorsque le transiteur togolais travaille, lorsque la marchandise sort du port, même jusqu'à la femme de Piawata, je parle souvent de la mouton garçon de Langabou, le Tchitchenga, les brochettes de... Maintenant, tout ce monde-là est devenu pauvre parce que les flux de marchandises ont baissé. Donc, c'est le premier chantier, le chantier majeur de Fort Gnassingbé et Bazoum, et même du Burkinabé, c'est de résoudre la sécurité sur le territoire burkinabé pour que le Togo puisse reprendre sa voie normale pour que les flux de marchandises reviennent dans notre pays.
Merci beaucoup, Franco. Alors, rapidement, nous sommes talonnés par le temps, mais je sais que ce sujet tient tellement à cœur à affirmer. Je veux parler alors de bon. Sujet, alors de mystère autour, alors d'un troisième mandat. Nous sommes au Sénégal, et avec Macky Sall, le journal Le Télégramme, Le Télégramme du Togo, titre à sa une, le jeu sale ou le sale jeu de Sall quand un démocrate prend goût au pouvoir. Affirmé.
Non, vous savez, je vais décevoir peut-être ceux qui nous écoutent. Moi, je dis, il faut laisser les chefs d'État tranquilles avec ces histoires de troisième mandat. Il faut laisser les chefs d'État tranquilles avec ces histoires de troisième mandat. Qui a dit que deux mandats, c'est bon? Qui a dit qu'un mandat, c'est bon? Il y a des gens qui ont fait leur expérience.
Mais c'est ce qui a été peut-être dit par la Constitution.
Non, attends, je vais revenir. Des gens ont fait leur expérience. Ils se sont dit, bon, on s'arrête à deux mandats. Et on vient de couvrir ces pays, et nous aussi, on plaque ça dans nos constitutions, on dit que c'est bon. Qui a dit ça?
Ah, mais si tant est que nous l'avons mis dans notre constitution, il est très important quand même que nous arrivions à l'appliquer.
Parfait. Maintenant, je vais répondre à cette question-là. Vous savez, moi je dis, tout d'abord, la limitation de mandat, elle est antidémocratique. La limitation de mandat, elle est antidémocratique. Je reprends. La limitation de mandat, elle est antidémocratique. En réalité, dans la démocratie, on permet à tout le monde de se présenter autant de fois qu'il veut. C'est ce qui se pratique dans les régimes parlementaires. Deuxième chose, je vous dis, c'est pourquoi limiter encore les mandats? Du moment où, dans toutes les constitutions au monde, il y a cette phrase, je cite, « L'initiative de révision appartient concurremment au chef de l'État, au Premier ministre, et un certain nombre de députés de l'Assemblée nationale. » Ça veut dire simplement que si vous modifiez la Constitution aujourd'hui, et moi je viens chef de l'État, je trouve que cette Constitution ne s'adapte plus à la réalité dans laquelle je me retrouve, la même Constitution me donne droit de la modifier. Et donc, quand je la modifie, ça veut dire, je peux dire, ok, le premier mandat est absous, et donc la prochaine élection, je la fais sur la base de la nouvelle Constitution. Et donc, j'aurai encore la possibilité de faire deux mandats de plus. C'est ce qui se passe au Sénégal. Macky Sall est arrivé. La loi, cette même constitution, lui permet de modifier la constitution. Et donc, il modifie la constitution. Ça veut dire, le premier mandat, il peut s'en prévaloir. Il peut dire que le premier mandat est absous. C'est revenu à zéro. Et maintenant, la prochaine élection, j'y vais sur la base de la nouvelle constitution. Et cette même constitution dit, j'ai la possibilité de faire deux mandats. Et donc, il est dans cette logique. En 2020, il vient de terminer deux mandats. Il le termine en 2024. Et il peut, au nom de la nouvelle constitution, se positionner. C'est la même chose qui va arriver à Patrice Talon. Il ne parle pas, mais il dirige le pays avec une main de fer. Mais ses collaborateurs savent bien que Patrice Talon va encore se représenter. Parce que quand il est arrivé, il a fait le même jeu que Macky Sall du Sénégal.
Mais donc, dans des interviews que nous avons écoutées, Patrice Talon a tellement insisté qu'il ne fera jamais alors un troisième mandat.
Oui, il a dit que lorsqu'il va venir, il va faire qu'un seul mandat. C'est la même chose aussi avec Joe Biden. Il faut que les gens comprennent ce qu'on appelle pouvoir et émotion. C'est-à-dire, moi, je veux, pour conclure, je vais dire ceci sincèrement que je répète ces derniers temps. C'est François Mitterrand, lorsqu'il arrivait au pouvoir en 1981, à l'époque, la France était au 70. Il disait que être 7 ans au pouvoir, c'est trop. Et donc, quand il a été élu le 10 mai 1981, il a fait 5 ans, 6 ans. Ses proches collaborateurs lui disent, Monsieur Mitterrand, donc c'est votre premier, dernier mandat, vous quittez. Il dit, le pouvoir est tellement bizarre que lorsque vous rentrez, vous comprenez pour ce pourquoi les gens, lorsqu'ils rentrent, ils n'arrivent plus à le lâcher. Donc, je vais, comme la constitution me le permet, je vais encore faire un mandat de plus. C'est pour cela qu'il a eu à faire le deuxième mandat et il est parti en 1995 avec 14 ans au pouvoir. Donc, laissez les chefs d'État tranquilles avec ces histoires du troisième mandat. Parce que quoi que vous fassiez, on peut la modifier, la constitution, à tout moment. Comme on veut.
Merci Firmin. Franco, Firmin qui dit déjà que, allez, quand on parle de la limitation de mandat, c'est antidémocratique. Est-ce que vous êtes d'accord?
Non, Firmin qui pense qu'il choque les gens, c'est qu'il a envie de choquer les gens. Et je rappelle hein, que Assimi Goïta, c'est un colonel de l'armée guinéenne. Ce n'est pas un colonel sac à dos. Et donc,
Goïta, c'est Mali.
Mali. Assimi Goïta, du Mali. Bouillard. Je parle d'Assimi, il a parlé de Assimi Goïta dans son intervention en tout temps.
Là, c'est le Mali.
C'est le Mali. Et vous savez, et si nos chefs d'État n'étaient pas des majeurs pour prendre leurs propres décisions, des gens comme Firmin, on peut les poursuivre parce qu'ils poussent les gens à l'homicide volontaire. Mais j'ajoute volontaire, pas involontaire. Regardez, on s'est donné les règles du jeu. La limitation du mandat. Attends, c'est quel orgueil qui fait que des gens ont honte de devenir simples citoyens, comme ce qu'on voit en Europe, en Occident, où des présidents reviennent et vont dans les magasins. Alors, vous-même, vous avez limité les mandats. Vous venez parce que vous avez vraiment envie. Vous ne pouvez pas vous revenir, c'est-à-dire comme un simple citoyen, ou bien vous ne pouvez pas aller un jour dans la tombe et vous poussez les institutions, que ce soit taillé à votre mesure. Il faut éviter ça. Une seule personne ne peut pas dire que c'est elle qui va gouverner un pays pendant des siècles. Le changement, la mutation, l'alternance a ses valeurs. L'alternance a des valeurs en ce sens que ça fait l'émulation. Et ça fait que quand quelqu'un est là, l'autre revient, un autre arrive dans les meilleures conditions, il y a création de valeur, il y a changement de la puissance économique, c'est-à-dire que l'argent change de main, c'est-à-dire qu'après 10 ans, si l'argent change de main, si le pouvoir change de main, c'est tout le monde qui sera bénéficiaire. Alors donc, il faut éviter de faire, même si les gens le font, et que les peuples n'ont pas la force pour mettre fin, il ne faut pas les encourager et filmer. Parce que nous avons des générations qui viendront après, à force d'insister, les gens ont la possibilité ou doivent modifier les tests pour tailler les constitutions, les tests que nous nous sommes donnés. Alors, c'est ça qui se passe partout. Où les codes pénals et codes de la presse, tout. À chaque moment, des gens modifient parce que vous leur donnez la possibilité d'interpréter les choses.
Franco, donc, merci beaucoup.
Qu'on respecte les règles.
Je sais que le débat est passionnant, mais nous allons donner l'opportunité à nos auditeurs parce que je sais que ils sont très impatients à nous écouter. Mais je vais donner d'abord la parole à Germain pour placer un seul mot avant quand même que nous allions vers nos auditeurs. Rapidement, Germain.
Oui, non, je crois que la révision de la Constitution, elle est permise par la Constitution elle-même. Maintenant, moralement, elle est discutable, mais légalement,
il n'y a aucun problème.
Il n'y a pas de problème. Après, on peut dire, bon, vous avez fait deux, il faut laisser les autres. Ça, c'est moral. Mais légalement, les gens révisent légalement la Constitution. Quand ils ont une majorité à l'Assemblée, ils préfèrent la voie parlementaire et tout ça, ou ceux qui sont sûrs de leur peuple. Comme au Rwanda, ils le font, même ça, c'est double voie là-bas, parlementaire et par le peuple directement. Après, c'est bon, quand j'ai écouté un frère qui dit quand on change de pouvoir, l'argent change de main et tout ça, bon, sais pas si on dira la même chose.
Merci beaucoup, Germain. Merci, Germain. Nous sommes talonnés par le temps. Nous donnons l'opportunité à déjà à nos auditeurs, mais nous observons juste alors un moment de pause parce que nous allons écouter alors nos annonces. 93.5. Retour dans cette émission Club de la Presse. Nous sommes en studio avec des confrères journalistes et aussi Cécile Memba et Hortense Nayo. Nous avons parlé culture avec les deux dames et nous avons discuté d'un certain nombre de choses alors dans cette émission. Et donc vous avez maintenant la parole pour poser des questions ou du moins intervenir sur l'un ou l'autre sujet débattu ici au Club de la Presse. Nous avons un premier auditeur. Allô.
Allô, bonjour monsieur.
Bonjour, comment vous allez?
Ça va, c'est Abdoul.
Abdoul, vous nous appelez de quel quartier?
C'est Agwezongo.
Agwezongo, Abdoul Ali.
Oui, je voulais demander, affirmer que si Mahamadou Issoufou n'avait pas laissé le pouvoir, est-ce que Bazoum sera président aujourd'hui pour arriver au Togo? Et si les Abdoulaye Wade et Koufouro au Ghana n'avaient pas laissé le pouvoir, est-ce que les autres pouvaient accéder au pouvoir? Pourquoi Firmin défend ceux qui ne veulent pas aller à l'alternance? Moi, je ne le comprends pas. Parce que s'il y a l'alternance, on ne va jamais poursuivre les journalistes jusqu'à les condamner 3 ans de prison et payer 3 millions d'amende. Mais je vois que quand lui, il les défend, c'est pourquoi lui, on ne lui poursuit pas, on ne lui condamne pas. C'est pourquoi moi, je veux lui demander.
Abdoul, Abdoul, voilà, il semble qu'Abdoul est parti. 22-23-33-74, allô? Allô, bonjour?
Allô?
Allô, bonjour?
C'est Joe.
Oui, Joe. Oui, allez-y.
J'ai écouté à les développements de M. Thémé. Il y a un truc que moi, je me dis toujours. C'est qu'il faut que les Africains arrivent à avoir leur propre politique, pour ne pas dire leur propre démocratie. C'est-à-dire, on fait du copier-coller. Quand vous prenez, par exemple, les Russes et autres pays, ils appliquent aussi, ils ont leur propre constitution. Les présidents qui sont là, pour ne pas dire, je crois, Poutine ou bien les autres dans les autres pays. Mais ce qui est marrant chez nous en Afrique, c'est qu'on veut toujours copier l'Occident. On veut toujours que l'Occident propose ce que nous devons faire. Nous-mêmes, nous n'avons pas notre propre politique. Et c'est ça qui nous suit de tout. Par exemple, vous avez développé que François Mitterrand a fait 7 ans. Après, ils ont changé. Les Français ont changé. Et nous, on copie. Quelle est notre propre politique? Quelles sont nos réalités? Il faut arriver à avoir nos réalités et pouvoir avoir des alternances sans problème. C'est parce qu'on fait toujours du copier-coller, on a la France qui est derrière, qu'on a tous ces problèmes. Moi, je dis aujourd'hui, qu'est-ce que le citoyen veut? Le citoyen veut manger. Le citoyen veut travailler. C'est tout ce que nous voulons. Si le citoyen veut s'éterniser au pouvoir, au moins, il n'a qu'à s'occuper de sa population. Moi, je préfère qu'on se batte pour ça, qu'on me dise qu'un être, quelqu'un n'a qu'à alternance. Alternance, moi, je ne trouve même pas, parce que je vois dans d'autres pays, il y a alternance, mais c'est des problèmes. Les gens qui viennent, quand je prends le Sénégal, par exemple, ce monsieur qui avait lutté contre Ouad pour son troisième mandat, lui-même, il vient maintenant, il veut se provisionner. À chaque fois, on a tous ces problèmes-là en Afrique. Pourquoi l'Afrique ne peut pas se doter de sa propre politique et arriver à nourrir sa population? Merci.
Merci beaucoup, Joe. 22-21-33-74, allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour, Papa Sodiné.
Oui.
Oui.
Je salue le plateau.
Oui.
Oui. Moi, je voudrais dire aux journalistes là, que ce qu'il dit, je crois que, enfin, je ne sais pas comment le qualifier, mais qui peut dire que l'alternance n'est pas bon pour l'Afrique ou bien l'alternance n'est pas bon? Il faut aller voir dans les autres pays où il y a l'alternance. Vous allez voir comment ces pays sont développés. Il y a des changements passés par là. Les pays sont... C'est-à-dire, si un pays, un président vient, il essaie de faire ce qu'il peut. Et l'autre, s'il vient, il veut faire ce qu'il veut dépasser l'autre. Mais qui parle que l'alternance n'est pas bon là? Moi, je ne crois pas que c'est qui dit la vérité. Merci, bonne journée.
Merci beaucoup à vous, Papa Sodiné. 22-21-33-14, allô?
Oui, allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Ah, oui, bonjour. À qui est-ce?
Niamavo. Oui, allez-y. Je vous remercie. Je vais faire une proposition d'analyse. Concernant Bagou qui n'a pas d'électricité. Hier même, j'ai appris que Tapaon n'a pas de feu tricolore. au moins les enfants font des efforts pour venir à Lomé pour voir la mer. Est-ce qu'il faut les transporter de la savane pour amener à Lomé aussi pour voir les fêtes tricolores? On vous dira, le Togo vient de très loin. C'est l'État, c'est priorité. La priorité, ce n'est pas de mettre l'électricité à Bago. Bon, monsieur Firmin, bon, moi, chaque fois que je vous écoute, ça me dit si, hein. C'est par Firmin que j'ai appris que entre les dirigeants, il n'y a pas confiance. Il a même dit que de lui citer un seul pays dans lequel le président n'est plus, et puis le président de l'Assemblée nationale a pris le pouvoir. Donc, c'est des coups d'État. Et lui, il ne soutient pas les coups d'État. Mais voilà comment il explique les choses. Et la dernière fois aussi, il disait qu'il est contre l'administration de mandat. Et il demande au nouveau président guinéen de ne jamais se présenter, que l'appareil électoral sera à ses manettes. C'est-à-dire qu'il nous dit clairement que celui qui est au pouvoir, il ne fait jamais les déclarations transparentes. Je crois qu'il va le confirmer, c'est un frère. Moi, je profite de lui. Tout ce qu'il dit, c'est vrai. Merci.
Merci beaucoup, Nyamavo. 22 21 33 114 allô. 91 36 73
75. Allô. Allô,
oui. Oui, bonjour. S'il vous plaît, à qui ai-je l'honneur?
Monsieur Akina.
Monsieur
Akina.
Monsieur Akina.
Oui, je vous appelle d'Agoué.
Agoué, oui, allez-y.
Ah, je salue ma soeur Cécile Meva là-bas.
Oui. Oui, allez-y.
C'est le fils de son chauffeur de l'air.
Allô?
Si elle peut me donner son numéro.
Nous avons du mal à vous écouter, monsieur Akna. Oui, allô? 22-21-33-114, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
Oui, bonjour. S'il vous plaît, j'ai honneur à qui?
Vous avez M. Gabriel Etekpo à l'appareil.
M. Gabriel Etekpo, allez-y.
C'est pour saluer les deux dames de valeur sur le plateau. Cécile Memba, je l'aime bien et je salue tous ses efforts et les tournées qu'ils viennent faire, je l'encourage. Je souhaite bon vent à Nayo qui prépare quelque chose pour demain encore. Alors, bon vent au club de la presse.
Merci beaucoup, Gabriel. Et Tikbo, 22-21-33-114-91-36-33-115. Allô?
Allô, bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour, plateau.
Oui, monsieur Gado, oui.
Bon, vous savez, moi, ça, je prie de faire. Je prie pour que le président sénégalais puisse avoir le sort de Alpha Condé. Parce qu'il veut verser le sang ou son troisième mandat. Ce n'est pas bon. Ce chef de l'État ne veut pas copier notre président Fonya Tindé. Le président Fonya Tindé a limité le mandat. Et bientôt, son mandat va terminer. Et ces vieux-là ne veulent pas suivre leur petit frère. Vous, allô?
Oui, monsieur Gado, oui. On vous écoute.
Un jour, ils vont suivre le même dossier, monsieur va suivre le sort de Alpha Condé. Merci, bonjour.
Monsieur Gado, toujours dans son style. 22-21-33-114, allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, c'est Dieudonné.
Dieudonné?
Oui, oui.
De quel quartier?
J'appelle Adi Dogomé.
Adi Dogomé, allez-y.
Oui. Et que quand les gens vivent ensemble, ils définissent des lois qui peuvent leur permettre de bien juger le pays afin que les richesses du pays soient bien partagées. C'est les règles qui consistent à limiter les mandats présidentiels. Tu fais deux mandats, tu dégages, quelqu'un d'autre vient. Mais si nous entendons nos journalistes qui disent chaque fois que, surtout Simon qui dit chaque fois que l'alternance, ce n'est pas une règle démocratique, moi je dis que c'est des gens qui sont en lien avec la minorité. Pour que le pouvoir continue à rester dans la main de la minorité. Quand la minorité fait mal, ils sont là sur les médias pour les défendre. Et puis, il y a dirigé ce pays plus de 60 ans. Ils ont fait quoi dans ce pays? Moi, ils ont tracé des voies. Mais voici que tout ce que nous subissons aujourd'hui, la fête qui règne à maître, nous n'avons pas d'hôpitaux. Quand tu tombes malade demain, tu as le tête sur la tête. Est-ce que je vais aller trouver la guérison? Et c'est ça, c'est ce qui se passe dans tous les pays africains. Nous devons travailler à ce qu'on comprenne que personne n'est le père de ce pays. Personne n'a enceinté je ne sais pas quoi une femme pour qu'on mette au monde ce pays pour que quelqu'un dise que c'est lui qui va rester éternellement. Tu ne sais pas, tu mets ta compétence pour développer le pays, tu quittes les camps, tu aussi viens. Si quelqu'un là, il refuse de quitter, être là, nous sommes quoi pour ne pas vouloir quitter le pays et à la tête du pays. Donc, quand on essaie de tenir ces propos, c'est ça qui nous retarde jusqu'à maintenant. Merci.
Merci beaucoup, Dieudonné. Alors, je sais que c'est toujours passionnant, hein, la politique, mais nous avons abordé d'autres sujets aussi. Il y a le social aussi. Allô?
Allô?
Oui, allô, bonjour.
Bonjour.
Oui, s'il vous plaît, c'est qui?
Je suis Nicolas.
Nicolas, allez-y, oui. Rapidement.
Je vais d'abord le plateau. Et je vais
Oui, allez-y, Nicolas.
C'est une analyse très profonde.
Allô, Nicolas, vous êtes en déplacement.
C'est comme on fait semblant de nous donner un cadre. Parce que la constitution ne garantit pas en réalité la protection des finances de notre pays. Que ce soit l'unité ou l'unité, c'est comme finalement une perte de temps. Parce qu'on est en train de dire que les constitutions sont antidémocratiques. Ça veut dire, en réalité, la démocratie, ça doit être la liberté.
Alors que Nicolas, oui. Je pense que le message est passé. 22 21 33 114. Allô, bonjour. Oui, bonjour.
C'est Comi.
Comi, allez-y.
Oui, mon premier apport, c'est de savoir est-ce que le Katogo est une spécificité
par rapport à quoi?
Au rendez-vous des chefs d'État qui viennent nous visiter. Parce que on regarde au Ghana, au Bénin, nous apprenons que tout récemment, Talon peut oser même prendre son véhicule et circuler dans la ville. Mais ici, quand on a un invité, nous autres Togolais, nous n'avons plus le droit de citer. Je ne sais pas si c'est le chef de l'État qui a dit aux militaires de la force de présidentielle de nous chasser tous. Même dans les ruelles, c'est difficile de sortir la tête. Comme si on est devenu un danger public pour notre confrère qui nous gère. Je ne sais pas si vous aussi, vous comprenez comment un président veut passer à 14 heures. On nous nargue depuis 11 heures jusqu'à 14 heures. Je ne sais pas si c'est l'invité qui en a exigé ainsi à cause de l'insécurité ou bien du djihadisme ou bien du terrorisme. Ça m'a beaucoup crispé la semaine. Deuxième approche, quand on parle de la démocratie, nous, pays africains, qu'on le veuille ou pas, nous sommes de la chefferie traditionnelle ou bien du système des royaumes. Soit on accepte le faire, mais quand on va chercher la démocratie, on ne va pas prendre la démocratie et mettre le royaume dedans. Et des analyses, ils vont dans ce sens-là pour nous faire croire que la démocratie est une mauvaise chose. Je dis non. Là, je dis absolument non. Soit nous sommes restés dans notre système primaire et nous nous y conformons, soit on va copier. Et on copie avec les avantages et les inconvénients. Je ne veux frustrer personne sur le plateau, mais merci.
Merci beaucoup, Comi. Je pense que c'est la fin des interventions téléphoniques. Nous revenons en studio. Et Firmé, on a compris quand même que nous avons débattu de beaucoup de sujets sur ce plateau, mais la politique intéresse beaucoup les Togolais.
Oui, c'est tout à fait. Vous l'avez remarqué encore. Moi, je voudrais juste deux petites choses. La première chose, quand les gens disent... Moi, je pense que nous voulons une chose sans contraire. Les gens disent que les chefs d'État doivent respecter la Constitution. L'initiative de révision fait partie des principes de la Constitution. Si la personne modifie la Constitution, ce n'est pas illégal, c'est constitutionnel. Donc, moi, je voudrais nous appeler au respect des tests. Modifier la constitution est légal, Germain l'a dit tout à l'heure, et respecter tout ce qu'il y a dans la constitution est légal. Donc, quand un chef d'État modifie la constitution, pourquoi vous dites que ce qu'il fait est illégal? La deuxième chose, c'est quand on parle de Wade, il est allé à sa troisième élection. Mais il a été battu par Macky Sall, que les gens aillent le chercher. Il a été battu par Macky Sall. Lui aussi, il a modifié la constitution et il a été à sa troisième élection, mais il a été battu. Et à l'époque, on disait que Macky Sall avait mené une politique de proximité, une campagne de proximité, et c'est ce qu'il a fait gagner. Maintenant, quand les gens disent encore l'alternance est démocratique, montrez-moi tous les livres de la démocratie où on dit que l'alternance est un principe démocratique. Il n'y en a pas. C'est-à-dire ce que je vais choquer, mais il faut qu'on nous dise la vérité. La limitation de mandat est antidémocratique. Il n'y a aucun principe de la démocratie où on parle de l'alternance. On parle plutôt du respect des tests. Nous voudrions que les chefs d'État respectent les tests. Oui, ils nous respectent les tests en se positionnant à un troisième mandat. Alors, c'est là où je dis, il faut que nous arrivions à réfléchir, à savoir, à se demander quel régime choisir pour le continent africain. Est-ce le régime présidentiel? Est-ce le régime parlementaire? Les Allemands, ils ne veulent pas cette histoire de limitation de mandat. C'est pour cela qu'ils ont choisi le régime parlementaire. Mmh. Où le chef de l'État a un rôle symbolique. Le Premier ministre, il est le chef du parti majoritaire. Il peut se représenter à quelque élection que ce soit autant de fois qu'il veut. Angela Merkel était dans son quatrième mandat. Mmh. Maintenant, pour conclure.
Oui, rapidement.
Pour conclure, celui-là qui parlait de Doumbouya. Oui, j'ai dit Doumbouya. Moi, je ne peux jamais soutenir qu'il y ait des coups d'État qui se perpètrent en Afrique. Le coup d'État est à condamner, je le dis avec la toute dernière rigueur. Il n'y a pas de coup d'État salutaire. La personne qui ont commis des coups d'État, c'est des criminels constitutionnels. Vous imaginez, au Mali, Goïta, mais il a commis un coup d'État. Comment on peut le soutenir? Burkina Faso, il a commis un coup d'État, on doit le condamner. Doumbouya, il a commis un coup d'État, on doit le condamner. Et je dis, qu'est-ce qu'on peut attendre de ce Doumbouya? Si on lui confie la destinée de tout un pays, il va organiser des élections. Celui-là qui n'a pas respecté les tests, il a fait un coup d'État, il va faire que voler les élections parce qu'il a déjà fait une faute constitutionnelle.
Merci beaucoup, Firmin. Germain, rapidement, réaction par rapport à l'intervention alors des auditeurs.
Non, mais je crois que les invités ont pris le centre d'intérêt. J'aurais mieux souhaité qu'ils se prononcent sur la solidarité qui est importante dans nos pays, parce que tout est politisé. On entrevoit le salut que par la politique, alors que par la solidarité, on peut s'en sortir, par le travail, on peut s'en sortir. Donc, je crois qu'il faut revenir un peu à ces valeurs-là, prônées par la grande sœur Cécile Meba, qui est là, par un certain nombre de leaders, d'institutions et tout cela. Mais après, sur le plan politique, le Togo n'est pas concerné par cette question de limitation de mandat. Et ces derniers temps, on a vu une tendance des troisièmes mandats depuis Ouattara, bien avant lui, les Sassou, le président rwandais Kagame et tout ce qui se passe, et comme il l'a dit, et au Bénin, c'est sûr que Talon aussi est en train de lorgner un troisième mandat. Donc après, quels sont les résultats? Un auditeur l'a dit, et lui s'en fout des mandats. Si le président arrive à changer le quotidien des populations, on a vu aussi en Allemagne, en tout temps, le problème, c'était pas Merkel. Mais après, il y a eu cette vague d'immigration qui a créé quelques problèmes. Elle était devenue impopulaire et après, elle a passé la main. Donc, après un dirigeant, c'est ce qu'il offre pendant qu'il est au pouvoir. Et c'est ce qui compte. Maintenant, les mandats, je ne crois pas. On a besoin de démocratie, on a besoin de liberté. Mmh. Firmin l'a dit, la démocratie et l'alternance, ce n'est pas la même chose. Mmh. L'alternance peut intervenir en démocratie. Mais c'est pas la même chose. Après, c'est des leaders qui travaillent pour le peuple, qui cherchent au quotidien le bonheur de leur peuple. C'est vrai que tout le peuple ne sera jamais heureux. Il n'y aura pas de pays où il n'y a pas de pauvres, hein, à quelques exceptions près comme le Qatar. Mais dans tous les pays, il y aura toujours des difficultés. Mais on veut voir des leaders qui se battent. Et quand ils partiront, on dira « Ah, pendant son temps, il y avait ça. S'il était là, il y avait ça, ça. » Et qu'on le regrette.
Merci beaucoup, Germain. Rapidement, Franco.
Non, juste rappeler à Chermet que les coups d'État, ce n'est pas seulement avec les armes. Donc, les coups d'État constitutionnels, hein, comme ce que Macky Sall veut faire. Mm. Parce que quand vous voyez déjà les morts sur la route, il n'a qu'à se rappeler qu'en Guinée, on a commencé déjà des procès pour Alpha Condé qui a foncé dans le mur alors que la population ne voulait pas. Avec tous ces cortèges de morts, ce sera sur sa tête, sur tous ceux qui forcent. On n'a pas refusé que les gens modifient la constitution. C'est dedans qu'on doit modifier. Mais lorsque l'appareil électoral est verrouillé, ou la personne qui est en face a tout verrouillé pour qu'il aille, pourquoi faire semblant que vous faites des élections? Économisez l'argent de ces élections pour développer le pays, comme l'a dit quelqu'un. Ok? Donc, personne n'est contre le changement de la constitution. Mais lorsque vous changez la constitution pour que aller encore aux élections, laissez les élections libres, d'accord, pour qu'il y ait une compétition. Sinon, vous faites semblant, vous vous trompez que vous organisez des élections transparentes, alors que vous savez que c'est, disons, de la supercherie. Voilà le point central.
Franco, merci beaucoup. Nous allons terminer cette émission en toute douceur avec les dames qui sont avec nous. J'aurais voulu vraiment qu'on parle surtout aussi du sport, parce que nous savons que les épaviers du Togo jouent déjà ce soir les étalons alors du Burkina Faso et c'est au Maroc, mais nous n'avons pas eu le temps nécessaire alors d'en discuter. Alors, Nayo, Hortense, votre mot de la fin.
Pas grand chose à dire. On se retrouve demain à 19h à l'Institut Goethe pour notre concert.
Merci beaucoup.
L'entrée est gratuite.
Voilà, merci beaucoup. Cécile Memba.
Oui, mais je lance un appel vraiment d'être aux côtés du gouvernement, appuyer ANADEP pour la cantine. Ça me tient vraiment que tout le monde peut intervenir. Si tu n'as pas les moyens, tu peux même aller les aider. Si du côté cuisine, du côté champ, du côté même laver les assiettes, tout ce que tu peux faire du côté cantine scolaire pour faire avancer ces élèves et vraiment fréquenter. Merci beaucoup.
Cécile, on va terminer en toute douceur avec l'un de vos morceaux que vous allez fredonner rapidement pour qu'on termine.
Bon, je prends Evigné. Evigné.
Santé.
De mon âme, mon envie au bord. De mon corps, mon envie au bord. Lolonye, na mon envie au bord. Chéri coco, na mon envie au bord. Ma poa si, mon envie au bord. Mba wofunyamo, ne mano vinyogbo e. Mba pomko, mano vinyogbo. Esronka modena, tonye trosu puha venam. Esronka modena, tonye trosu bibi. Esronka modena, tonye trosu bebe sese. E la pom tofie, atrom tofie. Devio ben kume.
Merci beaucoup Cécile. Et c'est sur cette belle voix que nous mettons un point final à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Merci Germain, merci Firmin, merci Franco. Merci à tous qui nous avez suivis. Vous allez retrouver Sass Gao déjà lundi pour un autre numéro de Club de la Presse. Je suis Pascal Lossou. Au revoir.